Imaginons un instant un truc assez terrifiant.
D'accord.
Genre, le simple fait d'avoir une pensée agressive, juste une pensée, ça suffirait à détruire physiquement la personne qu'on aime le plus au monde.
Ah ouais, c'est glaçant comme idée.
Complètement. C'est insoutenable. Et pourtant, bah, pendant les tout premiers mois de notre existence, c'est exactement la réalité dans laquelle on vit tous.
Ouais, en fait, on aime bien se rassurer en imaginant notre cerveau comme, tu sais, un ordinateur super performant avec des petits dossiers bien classés.
C'est clair, le mythe de la machine parfaite.
Exactement. Sauf que la réalité de notre développement psychique, c'est plutôt un terrain fondamentalement chaotique. C'est un espace primitif qui est forgé dans la petite enfance, où notre survie dépend littéralement d'illusions grandioses.
Et d'une fragmentation totale du monde, quoi. Et c'est exactement pour ça que notre plongée d'aujourd'hui est si passionnante. Je suis vraiment ravie de faire cette exploration.
Moi aussi, je suis prêt. Le point de départ de l'esprit humain, c'est pas un disque dur vierge. C'est vraiment un théâtre de survie extrême, à huis clos, avec des drames d'une intensité folle.
Et la subtilité, et c'est là tout le propos de notre analyse des sources cliniques aujourd'hui, c'est que ces toutes premières pièces de théâtre, ces drames infantiles, bah, ils s'arrêtent jamais vraiment.
Non, il continue de se jouer en sourdine tout au long de notre vie d'adulte.
C'est ça l'objectif de notre exploration. On a compilé un ensemble très riche de notes de cours en psychologie clinique, de psychanalyse, des théories de Mélanie Klein, du Freud.
Du très lourd.
Ouais, du lourd. On va décortiquer cette architecture invisible de l'esprit. Comprendre comment les fantasmes du berceau dictent nos angoisses actuelles et nos névroses.
Et on regardera aussi comment les cliniciens arrivent à naviguer là-dedans. Parce que descendre dans cette poudrière sans tout faire exploser, c'est un métier en soi.
C'est le fameux cadre thérapeutique, on y viendra. Mais du coup, pour commencer, il faut vraiment accepter de suspendre notre logique d'adulte, non?
Totalement. Il faut retourner à ce fameux point de départ, la période de 0 à 5 mois.
D'accord.
À ce stade, le nourrisson ne perçoit absolument pas le monde tel qu'il est. Mélanie Klein appelle ça la position schizo-paranoïde.
Waouh, ok, le terme est un peu intimidant là.
Ouais, c'est un terme clinique assez lourd, c'est vrai. Mais le mécanisme derrière est fascinant. En fait, l'enfant ne voit pas sa mère comme une personne complète, avec ses qualités, ses défauts, sa fatigue.
Il voit quoi alors?
Il ne perçoit que ce qu'on appelle des objets partiels. Et le plus fondamental, c'est le sein, ou en tout cas la source de nourriture et de réconfort.
D'accord.
Et face à la moindre frustration, genre le bébé a une faim terrible et la nourriture n'arrive pas tout de suite, l'angoisse de mort est immédiate.
Parce qu'il n'a pas la notion du temps.
Exactement. Et pour survivre à cette tension, l'esprit du bébé fait ce qu'on appelle un clivage. Il coupe la réalité en deux blocs totalement étanches. D'un côté, t'as le bon sein, qui nourrit. Et de l'autre, le mauvais sein, qui frustre et qui le persécute.
Attends, je fais une pause là-dessus parce que ça me semble un peu contre-intuitif.
Vas-y.
Est-ce qu'on n'est pas en train de plaquer des intentions d'adulte sur un bébé là? Enfin, un nourrisson qui a faim perçoit vraiment le retard de la nourriture comme une entité maléfique.
C'est une super question, mais non. Il ne s'agit pas de malice au sens intellectuel, c'est purement biologique.
Et fantasmatique.
Ah, ok.
À cet âge-là, la faim est ressentie comme une attaque interne, une douleur fulgurante. Le bébé n'a pas les mots pour se dire maman est dans les embouteillages.
Ou le biberon est dans le micro-ondes.
Voilà, exactement. Cette douleur, il la projette sur l'objet qui lui manque. Le sein absent devient la douleur.
D'accord.
Et c'est là qu'intervient la projection. Pour pas être détruit de l'intérieur par cette angoisse, le bébé expulse ce mauvais objet hors de lui.
Physiquement, oui, par des pleurs violentes, par l'urine, par les selles. Mais sur le plan psychique, dans son fantasme, l'enfant a vraiment l'impression de déchiqueter ou détruire cette entité menaçante.
D'accord, je vois très bien. Si je devais visualiser ça, ça me fait penser à un jeu vidéo à très basse résolution.
Ah, comment ça?
Bah, genre un jeu conçu uniquement pour la survie immédiate. Le moteur graphique du cerveau du bébé ne calcule que l'élément avec lequel il interagit à la seconde même.
Ouais, je vois.
Genre, il ne rend visible que la pomme ou le sein. Tout le reste de l'écran est dans un brouillard total. Le bébé ignore que la personne attachée au sein existe. Et si cet objet pose problème, bah, l'univers entier devient une menace.
Mais c'est parfait comme analogie, cette histoire de basse résolution. C'est exactement ça. Et ce fantasme de destruction, c'est pas juste une rêverie, c'est une vraie micro-hypnose de survie.
Une micro-hypnose.
Oui, c'est le précurseur de la pensée. Face à une réalité nerveuse insupportable, l'esprit crée une hallucination pour ne pas s'effondrer.
Mais ce qui donne le vertige, c'est que ce fameux clivage, il s'évapore pas le jour de notre premier anniversaire.
Ah non, pas du tout. On le retrouve chez l'adulte.
Oui, les sources mentionnent un cas clinique précis, celui de Florian qui a 22 ans.
Oui, le jeune Florian.
C'est ça, un jeune homme qui a des prédispositions psychotiques, de violentes migraines, et sa vie familiale est ultra toxique. Il doit s'occuper de sa mère dépressive et son père le rabaisse constamment en le traitant de « bon à rien ».
Exactement. La réalité de Florian, elle est comme la douleur insupportable du nourrisson. Elle menace de détruire son esprit. Du coup, que fait sa psyché? Elle réactive ce fameux clivage archaïque.
Ça donne quoi concrètement?
Décrochage. Face à son thérapeute, un jour, Florian se lève et déclare très sérieusement qu'il est l'élu, le futur président.
Ah oui, quand même.
Et quelques mois plus tard, il annonce qu'il a mis son habit de guerrier, qu'il est Naruto.
Attends, il faut bien préciser, Florian ne joue pas un rôle, hein. Il ne ment pas pour attirer l'attention.
Absolument pas. Ce sont des délires brefs, mais qui ont une fonction vitale. Ce sont des soupapes de sécurité.
Il se coupe en deux.
C'est ça. Il sacrifie une partie de son moi dans un délire de toute puissance. Et ça permet à l'autre partie de son esprit de rester vaguement connectée à la réalité.
Pour pouvoir continuer à chercher un boulot ou faire un manger pour sa sœur.
Exactement. Sans cette fragmentation, cette basse résolution, la douleur le ferait littéralement exploser psychiatriquement.
Bien, on fait tous un peu ça, non?
C'est-à-dire?
Bah, à une échelle beaucoup plus légère. Pensons à une rupture amoureuse super douloureuse.
Ah ouais.
Du jour au lendemain, notre ex, qui était une personne nuancée, complexe, ça devient soudainement un monstre absolu. Zéro qualité, 100% toxique. On clive, quoi.
C'est un exemple frappant, parce que la nuance est trop douloureuse à digérer sur le coup.
C'est ça, on coupe la réalité en deux.
Même l'adulte névrosé, qu'on pourrait qualifier de normal, régresse temporairement vers cette position schizoparanoïde face au trauma. Le clivage, c'est vraiment le bouclier le plus primaire qu'on ait.
Bon, heureusement pour la plupart d'entre nous, le développement suit son cours normal. Et c'est là que le fameux jeu vidéo basse résolution reçoit une énorme mise à jour.
Le grand patch de la réalité.
Voilà. Autour du quatrième mois, avec un pic vers 8 mois, l'enfant entre dans ce que Klein appelle la position dépressive. Le brouillard se lève. Et le bébé fait une découverte fracassante.
Que le bon sein et le mauvais sein, bah, c'est la même chose. C'est une seule personne, sa mère.
Et c'est le drame.
Un cataclysme émotionnel, ouais. Soudain, le nourrisson intègre la réalité globalement. Et il se souvient de toutes ses attaques fantasmatiques antérieures. Quand il voulait détruire le mauvais sein.
Et là, il réalise.
Il réalise, avec effroi, hein, mais l'entité que j'ai voulu déchiqueter par la pensée, c'est la personne que j'aime le plus et dont je dépends totalement.
Ah, l'angoisse.
Ça fait naître une culpabilité archaïque féroce.
Si fascinant parce que, du coup, ça change complètement la perception qu'on a de la fameuse angoisse du 8e mois.
La peur de la séparation.
Oui, tous les parents connaissent ça. On a tendance à croire que le bébé pleure juste parce que sa maman lui manque. Ou qu'il a peur d'un inconnu.
Alors que pas du tout.
C'est une crise existentielle ultra brutale. Le bébé est terrifié à l'idée d'avoir littéralement détruit sa mère avec ses propres pensées hostiles.
C'est le clair du problème. L'absence de la mère n'est pas vécue comme un éloignement géographique. C'est la preuve potentielle qu'elle a été effacée par l'agressivité de l'enfant.
Waouh ! Et comment il se défend contre ça ?
Par un nouveau mécanisme. L'introjection. Métaphoriquement, l'enfant va avaler le bon objet. Il met la figure maternelle à l'intérieur de son propre esprit pour la protéger de ses pulsions destructrices.
C'est beau, d'une certaine manière.
C'est l'aube de la capacité à être seul.
Sauf que, selon les notes qu'on a étudiées, cette introjection, elle peut prendre des détours vraiment effrayants.
Ah oui, avec Ferenczi.
Oui, le psychanalyste Sandor Ferenczi explique que si l'environnement est dysfonctionnel ou violent, l'enfant va intérioriser ce qui se présente.
Ouais, l'identification à l'agresseur.
C'est ça. Face à un parent abusif, pour pas mourir de peur et pour garder un lien, l'enfant va introjecter la menace. Il devient la menace pour ne plus la subir. Et c'est littéralement la fondation du syndrome de Stockholm.
C'est fou, hein. L'esprit préfère s'identifier à la violence plutôt que de sombrer dans l'impuissance et le chaos.
Et même en dehors de la violence extrême, négocier cette position dépressive, c'est être sur un fil de funambule. On a ce cas clinique dans nos sources, une petite fille de 4 ans.
Oui, très parlant comme cas.
Elle a un comportement d'opposition majeur, elle fait des crises de rage inouïes, elle tape, elle se roule par terre. Et un jour, dans un moment de calme, elle lâche à sa mère cette phrase glaçante. « C'est tellement bien quand tu ne te fâches pas. »
Une phrase qui a l'air mignonne, mais qui cache un test de résistance incroyable.
Exactement. Il faut décortiquer la mécanique.
Vas-y.
En fait, pourquoi elle fait ces crises? Elle rejoue son agressivité infantile. Elle projette un monstre sur la mère et elle attaque. Est-ce qu'elle attend avec une angoisse terrible? C'est la réaction de sa mère.
C'est ça. Si la mère s'effondre en pleurs ou devient violente, la petite se dit « Mes pensées l'ont détruite, je l'ai transformée en monstre ».
La réalité est brisée. Mais si la mère reste calme, si elle contient la colère, c'est la seule preuve pour l'enfant que la mère a survécu à ses attaques.
Donc, c'est tellement bien quand tu ne te fâches pas. Ça veut dire « C'est soulageant de voir que ma haine ne t'a pas anéanti ».
Et encore une fois, on retrouve cette mécanique chez plein d'adultes qui sabotent leurs relations, non?
Ah, tu penses aux disputes de couple?
Oui. La personne qui va pousser son partenaire à bout, multiplier les disputes ridicules, tester les limites. Tout ça, c'est souvent ce test archaïque. Si je te montre ma part destructrice, vas-tu survivre ou vas-tu m'abandonner?
On teste la solidité de l'autre pour apaiser cette même culpabilité primitive. C'est la preuve qu'on survit tous à ces tempêtes, mais qu'elles laissent des cicatrices structurelles. Ce qui amène Freud à dire, je cite, « Nous sommes tous névrosés ».
Bah, c'est presque rassurant, je trouve.
C'est vrai, ça dédramatise.
Ça démystifie la folie. La névrose, c'est pas une maladie honteuse, c'est juste notre négociation quotidienne avec les vestiges de notre enfance.
La santé mentale, c'est qu'une question de curseur. Dans l'architecture freudienne, la psyché, c'est un champ de bataille entre trois instances. T'as le ça, le grand réservoir de nos pulsions sexuelles et agressives.
Qui veut tout, tout de suite.
Voilà, pas de morale, pas de temps. De l'autre côté, t'as le surmoi, l'intériorisation des interdits, de la morale. Et au milieu, le pauvre moi qui essaie de survivre dans la réalité.
J'adore cette dynamique, je la visualise comme un enfer d'entreprise.
Une entreprise mongle.
Comment ça?
Imaginons le moi comme un cadre intermédiaire complètement au bout du rouleau. Au-dessus de lui, il a un boss chaotique, le ça, qui hurle « Je veux un profit maximum dans la seconde, peu importe qui on écrase ».
D'accord, je vois bien le genre. Et sur le bureau d'à côté, t'as le DRH, le surmoi, ultra rigide et punitif, qui menace de le licencier au moindre écart éthique.
Et le cadre intermédiaire doit jongler avec les deux.
C'est ça.
Pour éviter la faillite pure et simple.
En suivant ton analogie, les symptômes névrotiques, les phobies, les tocs, les angoisses, ce sont en fait les plans de sauvetage élaborés par ce cadre intermédiaire.
Des compromis douloureux mais brillants.
Exactement. Et on distingue plusieurs grandes catégories d'effondrement quand ça lâche. D'abord, les névroses traumatiques. Ça, c'est quand le système de défense, le parexcitation, il explose.
Attends, ce fameux parexcitation, on peut l'expliquer simplement, hein.
C'est comme le système immunitaire psychologique, ou un airbag si tu préfères. Ça filtre les stimulations quotidiennes, mais lors d'un choc brutal, un accident, la guerre, l'impact est trop rapide. L'airbag n'a pas le temps de se déclencher. Et là, c'est l'effraction.
Voilà, l'esprit est inondé d'angoisse qu'il ne peut pas traiter. D'où la nécessité de ce qu'on appelle l'abréaction. C'est le processus où on aide le patient à revivre émotionnellement l'événement dans un cadre sécurisé pour le digérer.
Sans ça, le cerveau tourne en boucle, j'imagine.
Exactement. C'est le stress post-traumatique des vétérans, par exemple. Et là, le danger vient de l'extérieur.
Mais dans d'autres névroses, le danger vient de l'intérieur, non?
Ouais, les névroses de transfert. Dans l'hystérie, par exemple, le conflit interne est tellement insupportable que l'esprit court-circuite le conscient et utilise le corps pour parler.
Genre des paralysies motrices sans aucune lésion réelle.
Exactement. Le corps porte le poids du secret. Ou alors, dans la phobie, l'angoisse est collée sur un objet extérieur. Soudainement, t'as une terreur des araignées.
C'est une astuce redoutable. Un conflit interne, on peut pas le fuir, mais on peut s'organiser pour pas croiser d'araignées.
C'est du génie psychique, en fait. Et c'est encore plus sophistiqué dans la névrose obsessionnelle. Là, ce sont les ressources humaines de ton analogie, le surmoi, qui ont pris le pouvoir.
Le patient est écrasé par la culpabilité.
Ouais, et pour s'apaiser, il va utiliser la pensée magique. Par exemple, le besoin absolu de vérifier 4 fois que les volets sont fermés avant de dormir.
Mais pourquoi vérifier des volets apaiserait une culpabilité profonde? C'est quoi le lien?
La porte mal fermée, elle symbolise la faille par laquelle la pulsion interdite pourrait s'échapper. En vérifiant 4 fois, le rituel magique annule l'angoisse de la faute.
Sauf que ça dure pas.
Non. L'apaisement est hyper court et le cycle infernal recommence.
Bon, sachant tout ça, sachant que derrière le sourire d'un adulte se cachent des clivages enfantins, des rituels obsessionnels, des traumatismes, comment un professionnel peut-il entrer dans cette poudrière sans tout faire sauter?
Bah, il s'appuie sur l'architecture la plus solide de la pratique clinique, le cadre.
Avec un grand C.
C'est ça. Le cadre, c'est pas juste un bureau, c'est une enveloppe de sécurité absolue. Et ça commence dès le premier appel téléphonique. Le praticien écoute la voix, l'urgence, Et dès la salle d'attente, il observe.
Oui, il y a ce détail frappant dans nos sources sur l'ambivalence vestimentaire. Le simple fait qu'un patient arrive avec un costume parfaitement repassé, c'est un indice clinique.
Bien sûr, une présentation presque chirurgicale, ça peut être une armure psychique. Le patient dit « Regardez, tout est sous contrôle », alors qu'à l'intérieur, c'est l'effondrement. Si le praticien ne repère pas ça, il risque de brusquer les défenses trop vite.
C'est pour maintenir cette solidité que les règles du cadre sont aussi inflexibles alors.
45 minutes la séance, ni 50, ni 40. Le temps de plonger et de remonter à la surface en sécurité. Le secret total est le tarif fixé d'emblée.
Alors là, je dois faire l'avocat du diable.
Vas-y, je t'écoute.
Quand on lit ces règles, exiger que le patient paye en espèces ou par chèque. Refuser les attestations pour la justice, même si une victime en larmes nous le demande pour son procès. Ne jamais parler de soi. Vu de l'extérieur, c'est hyper froid. C'est presque de l'arrogance d'infliger ça à quelqu'un qui souffre, non?
C'est une critique très classique, oui. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est l'ultime rempart de protection.
Comment ça?
Prenons l'argent liquide. Freud avait compris qu'une séance gratuite produit rarement de vraies transformations. Sortir l'argent physiquement, c'est un sacrifice symbolique. Le patient donne une valeur concrète à son travail.
Et pour le refus de témoigner en justice?
C'est fondamental. Si le thérapeute cède à un juge ou à un avocat, il devient un acteur du système extérieur, un juge moral. Il brise l'alliance de la confidentialité.
Il doit rester inébranlable, quoi qu'il arrive.
Et surtout, le patient va tester ce cadre inconsciemment. Il va arriver en retard, oublier de payer. Le thérapeute doit tenir bon. Parce que s'il plie face à un retard, le patient va se dire « Si sa forteresse s'effondre pour 5 minutes, comment va-t-il me contenir quand ma vraie folie intérieure va déferler ?»
Ah, la rigidité du cadre rassure le monstre infantile. C'est brillant. Ça explique aussi pourquoi on utilise si peu le fameux divan, non?
Exactement. L'image d'Épinal du patient allongé qui parle au plafond, en réalité, c'est proposé qu'à environ 10% des patients.
Parce que perdre le contact visuel, c'est trop dur.
Ça exige une énorme capacité de symbolisation. Pour un patient fragile, comme Florian avec ses délires, c'est contre-indiqué. Il a vitalement besoin du regard de l'autre pour rester ancré.
Et ce cadre ultra rigide, il a une dernière fonction, peut-être la plus importante. Il protège le patient des démons du thérapeute lui-même.
Le danger ultime. L'inconscient du psy, c'est le fameux contre-transfert.
Il y a cette phrase dans nos sources d'une humilité folle. Nous ne sommes pas des machines, nous louons notre inconscient au service du patient.
C'est le cœur nucléaire de la thérapie. Tout désir du thérapeute est une alerte rouge. Même le désir bienveillant de sauver le patient.
Vouloir sauver, c'est toxique.
Souvent, ça répond à un besoin narcissique du thérapeute de se sentir réparateur. Et ça pollue le travail. C'est là que le drame d'Éric Ruffia prend tout son sens.
Oui, le cas d'école tragique. Il est resté sans supervision par ses pairs pendant des mois.
Et une névrose de contre-transfert s'est installée. Ses angoisses sont entrées en résonance avec celles du patient. Un jeu de miroir toxique et une paralysie totale de la thérapie.
C'est pour ça qu'il n'y a aucun contact physique. Pas de tutoiement, pas de cadeaux.
Et la supervision obligatoire, oui.
C'est un paradoxe majestueux quand on y pense. Ce qui soigne, c'est pas un protocole. C'est la rencontre de deux humains. La faille humaine du thérapeute est l'outil de guérison, mais aussi la plus grande menace.
C'est une rencontre sous très haute sécurité.
Quel vertige! Pour résumer, on a vu le nourrisson qui fracture la réalité pour survivre, l'intériorisation de la mère, la culpabilité, et comment ces batailles forgent notre psyché d'adulte avec nos névroses.
Et le cadre clinique pour affronter tout ça. Rien n'est le fruit du hasard dans nos actes manqués.
Et justement, une dernière pensée pour clôturer. Ce processus d'introjection saine, d'évolution, ça implique inévitablement un travail de deuil.
Guérir, c'est perdre une partie de soi.
C'est ça. Évoluer, ça signifie tuer une ancienne version de soi-même avec ses vieux réflexes. Ce qui soulève une question vertigineuse pour chacun et chacune. Si guérir exige de perdre un bout de son identité, de quelle version de nous-mêmes a-t-on secrètement le plus peur de faire le deuil? Même si cette carapace nous rend malheureux aujourd'hui.
C'est une question très profonde.
Sommes-nous prêts à abandonner notre basse résolution pour affronter la complexité du monde? La question reste ouverte.